corasso.org.
Corasso, association de patients qui informe et soutient les personnes touchées par un cancer ou un cancer rare tête et cou, plus communément appelé cancer ORL, vous propose un podcast consacré à la maxillectomie. Pour répondre aux questions que se posent les patients, le docteur Stéphane Temam, médecin ORL et chirurgien cervico-facial, chef du service de cancérologie cervico-faciale de Gustave Roussy, est avec nous. Bonjour docteur Temam.
Bonjour.
On s'intéresse à présent aux conséquences de la maxillectomie. Elles sont d'ordre fonctionnel et esthétique. Elles sont vastes, on va en parler. Est-ce qu'on peut commencer par l'aspect fonctionnel, avec notamment les conséquences liées à la bouche?
Alors absolument, quand la maxillectomie emporte une partie du palais et une partie des dents, ça a des conséquences, notamment sur la réhabilitation dentaire, le fait de perdre des dents et de créer également une cavité entre la bouche et l'intérieur du nez. Et donc c'est pour ça que le plus souvent, on va corriger cette perte du palais et des dents, soit par ce qu'on appelle une prothèse qui est mise en place et fixée aux dents restantes. C'est une prothèse le plus souvent amovible qu'on retire le soir. Ou le plus souvent maintenant, on reconstruit le palais avec des lambeaux qui peut comporter de l'os. Et dans cet os, on va essayer de mettre en place des implants pour avoir un appareil dentaire fixé. Si on ne peut pas mettre d'implant, on mettra en place un appareil dentaire amovible. Mais la reconstruction a permis de recréer l'étanchéité entre la bouche et les cavités nasales et sinusiennes.
Qu'est-ce qu'un trismus? Comment l'éviter?
Alors le trismus, c'est la limitation d'ouverture buccale. C'est un des risques de ce type d'intervention. Il est lié au fait que dans l'arrière de la maxillectomie passent les muscles de la mastication qui partent de la mâchoire et qui vont vers le crâne. Et quand on opère, on vient au contact de ces muscles qui peuvent ensuite se contracter et faire que la personne n'arrive plus à ouvrir la bouche. D'autant plus qu'après la chirurgie, il y a le plus souvent de la radiothérapie des rayons qui va majorer la fibrose et donc cette rétraction des muscles de la mastication. On a appris à limiter ce trismus, en fait, lorsqu'on fait la maxillectomie, en enlevant une partie des muscles de la mâchoire, on est en fait suréquipé en muscles de la mastication et on peut très bien se passer d'une partie des muscles. Donc maintenant, quand je fais une maxillectomie, j'essaye d'enlever, de couper une bonne partie des muscles de la mâchoire pour limiter ce trismus. Lorsqu'il survient, quand même, il y a des exercices d'ouverture buccale et il peut y avoir des interventions chirurgicales secondaires, mais les conséquences sur le long terme sont souvent importantes malgré ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler des conséquences sur la voix?
Alors la voix, en fait, le maxillaire et les cavités nasosinusiennes dans leur globalité servent de cavité de résonance. Et quand on opère, soit on crée une grande cavité, soit on réduit la taille de la cavité nasale. Et en fait, ça a des conséquences sur cette cavité de résonance en donnant une voix souvent comme quand on est enrhumé, une voix dite nasonnée. Donc on s'y habitue, c'est une voix qui est relativement forte en intensité, mais qui est modifiée dans son timbre.
Certaines conséquences peuvent également toucher l'œil.
Alors, lorsque la maxillectomie vient au contact du contenu de l'orbite et donc de l'œil, il y a effectivement des conséquences possibles sur le fonctionnement de l'œil, soit au niveau du nerf qui fait fonctionner la vision, hein, le nerf optique, soit au niveau des muscles qui font bouger l'œil. Et donc, il peut y avoir une diminution de la vision et une diminution des mouvements de l'œil à l'origine d'une vision double. Des choses qui peuvent se majorer également avec la radiothérapie post-opératoire. Donc, il y a des mesures correctrices à faire pour essayer de limiter ces problèmes. Deuxième chose au niveau de l'œil, c'est les problèmes au niveau des voies lacrymales qui passent au niveau du coin de l'œil en dedans, hein, proche du nez. Et ces voies lacrymales sont le plus souvent abîmées, coupées, voire enlevées lors de la chirurgie maxillaire. Et donc, les larmes s'évacuent mal dans le nez et donc font moins bien leur office de protection de l'œil. Et il peut y avoir également ce qu'on appelle un larmoiement, c'est-à-dire les larmes qui coulent sur le visage au lieu de tomber au niveau du nez, ou alors s'accumuler devant l'œil, ça fait un petit voile gênant la vision.
Concernant l'oreille ?
Alors, l'oreille, peut être abîmée lorsque la tumeur est très en arrière du maxillaire, dans la partie postérieure, et proche d'un organe qu'on appelle la trompe d'Eustache, qui est un tuyau, un canal qui fait communiquer l'oreille et l'arrière du nez, le cavum, le nasopharynx, qui permet d'équilibrer les pressions. Et en fait, quand on touche à cette trompe d'Eustache, avec la chirurgie, avec la radiothérapie, il peut y avoir des dysfonctionnements de l'oreille à l'origine d'une diminution de l'audition qui peuvent nécessiter également des plasties secondaires, des corrections au niveau de l'oreille, de la mise en place d'un aérateur pour limiter les conséquences.
Et enfin, docteur Temam, on peut parler du nez qui comporte également des séquelles, notamment au niveau des sinus, la respiration.
La chirurgie de maxillectomie touche les sinus qui ont un rôle d'humidification, de purification de l'air. Et quand on opère et qu'on fait la radiothérapie après, on perd ces fonctions-là. Et ce que j'explique aux patients, c'est que au décours, ils vont avoir ce qu'on appelle une rhinite croûteuse, plus ou moins marquée, plus ou moins invalidante, mais très 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 fréquente, et qui va nécessiter un lavage manuel du nez. Normalement, le lavage du nez est automatique, et là, il va être manuel avec du sérum physiologique. On est obligé de se laver le nez pour limiter la formation de croûte au niveau des cavités nasales. Deuxième chose qui peut être impactée, c'est l'odorat. L'odorat peut être impacté par la chirurgie et par la radiothérapie, et il va récupérer plus ou moins après les différents traitements.
Et puis il y a aussi le malodorat.
Alors effectivement, les croûtes qui se forment à l'intérieur du nez peuvent être malodorantes et gênantes pour le patient et pour l'entourage.
Nous avons donc abordé les séquelles d'ordre fonctionnel. Il y a aussi des conséquences esthétiques. Quelles sont-elles ?
Alors, effectivement, c'est une chirurgie qui va se faire au niveau du visage. Alors, il n'y a pas obligatoirement de cicatrices au niveau du visage, car les cicatrices peuvent être uniquement à l'intérieur de la bouche. Mais les cicatrices peuvent quand même être visibles. On essaye de les cacher autour des plis du nez et de la lèvre. Mais il y a surtout une modification de l'architecture, de la charpente qui donne la symétrie et la projection du visage. Et comme ces maxillectomies sont le plus souvent réalisées que d'un côté, en fait, qu'on compare à l'autre côté qui n'a pas été traité, il peut y avoir des modifications, soit de profondeur de l'œil, avec l'œil qui est un peu rentré par rapport à l'autre côté, soit des projections de la pommette et de la joue, qui sont des choses qui peuvent également être corrigées secondairement.
La prise en charge de toutes ces séquelles est importante. Quelle rééducation après une telle intervention, la maxillectomie ?
Pour limiter et corriger effectivement les séquelles, il y a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire qui peut impliquer les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les dentistes, les prothésistes dentaires ou faciaux, pour corriger au maximum toutes les anomalies et les séquelles qui sont observées. Et donc ça peut être un long parcours sur plusieurs années qui va nécessiter parfois plusieurs interventions chirurgicales de plastie secondaire. Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le catalogue des séquelles qui a été énuméré n'est pas présent chez tout le monde. Et donc, il va être plus ou moins marqué d'une personne à l'autre. Et donc, les prises en charge vont être adaptées aux séquelles observées.
Avant de se quitter, un dernier mot sur les récidives, hein, peut-être.
Alors, la prise en charge du cancer, effectivement, ou des tumeurs bénignes agressives qui nécessitent une maxillectomie et le plus souvent suivi d'une radiothérapie, on ne peut pas affirmer à 100% au patient qu'elle va amener à la guérison. Et donc, il y a besoin d'une surveillance au décours en parallèle de la prise en charge des séquelles pour s'assurer qu'il n'y a pas de récidive locale du cancer. Pour limiter le risque de récidive, il faut réaliser des chirurgies extensives adaptées à la maladie, adaptées aux patients, et le plus souvent dans des équipes expérimentées pour une maladie qui est rare.
Merci beaucoup, Dr Stéphane Temam, d'avoir répondu aux questions de l'association Corasso. Je rappelle que vous êtes chirurgien ORL et chef du service de cancérologie cervico-faciale à Gustave Roussy. Merci à vous, à bientôt.
Au revoir. Corasso.org